Alors nous allons maintenant, pendant les quelques cours qui restent, prendre le point de vue des le traité sur les parties des animaux, le premier livre qui est très important et très intéressant. C'est un des livres connus comme exposant la méthode d'Aristote. Et à ce point de vue-là, ça complétera ce qu'on a vu en physique. Les deux livres sont un peu en parallèle, vous voyez. Parce que les parties des animaux, c'est pas le De Anima. C'est autre chose. C'est la cause matérielle du vivant. En tout temps de connaissance et de recherche. Donc je prends tout de suite, hein. Je prends pas l'introduction, parce que l'introduction, elle est intéressante, puisque c'est le père Leblanc. Le père Leblanc s'intéresse à Aristote, il a son point de vue. Il y a des tas de choses auxquelles on peut discuter, mais c'était quand même intéressant. En tout ordre de connaissance, Aristote est plus intéressant, et de recherche. Donc, peri passan theorian, le grec y est. Kai methodon. Donc, en tout ordre de connaissance et de recherche, la plus simple comme la plus haute, il semble qu'il y ait deux sortes d'altitudes. On nommerait bien la première science de l'objet et l'autre une sorte de culture. Ça, c'est très curieux, hein, c'est intéressant. Donc, les deux aspects qui caractérisent ce qu'Aristote appelle, au fond, sa philosophie, si vous voulez. Car c'est bien le fait d'un homme cultivé que d'être apte à porter un jugement qui tombe juste sur la manière, correcte ou non, suivant laquelle on fait un exposé. C'est même à ce signe que nous reconnaissons la culture générale. Et le résultat de l'éducation est précisément cette aptitude. Avec cette distinction toutefois, que nous reconnaissons bel homme capable de juger, lui tout seul, pour ainsi dire, de toute chose. Tandis qu'un autre ne sera compétent que dans un domaine déterminé. Admettons en effet qu'on puisse ne posséder que partiellement cette culture dont on vient de parler. Vous voyez, au fond, c'est le point de vue de la connaissance des principes propres qui fait la science propre, et le point de vue de la culture en général. Paideiantin, ce qu'on appelle la culture, un homme cultivé. C'est très curieux, hein, de voir ça chez Aristote. C'est la réponse aux sophistes. Les sophistes veulent donner une culture générale. Une culture générale pour permettre de traiter toute chose d'une manière intelligente. La rhétorique. La rhétorique permet de parler de toute chose. Sciences Po. Ça permet de parler de toute chose d'une façon correcte. Et avec ça, on peut s'introduire un peu partout, sans dire trop de bêtises. Vous voyez, au fond, c'est très curieux. On n'a plus du tout aucun sens de la philosophie politique. Et on l'a remplacé par Sciences Po. Et puis, le point de vue des sciences particulières. Alors Aristote, dans sa sentence qu'il appelle justement Tina Paideian, certaines cultures, Aristote ne supprime cependant pas la philosophie politique. Il y a une philosophie politique qui s'est ramenée à l'éthique, qui est en correspondance avec l'éthique, qui n'est pas l'éthique personnelle. Et puis, il y a cette culture générale. Car c'est bien le fait d'un homme cultivé que d'être apte à porter un jugement qui tombe juste sur la manière correcte ou non suivant laquelle on fait un exposé. Un jugement juste. Alors, quel sera le critère de ce jugement juste ? À la différence d'une science de l'objet, la science de l'objet, c'est par rapport à la réalité. C'est la philosophie. C'est même à ce signe que nous reconnaissons la culture générale. Et le résultat de l'éducation est précisément cette aptitude. Le résultat de l'éducation, c'est permettre d'avoir cette possibilité de porter un jugement juste sur l'aspect général. In speciali, in communi. Oui, la distinction que prend saint Thomas. Avec cette distinction toutefois, que nous reconnaissons tel homme capable de juger, lui tout seul, pour ainsi dire de toute chose, tandis qu'un autre ne sera compétent que dans un domaine déterminé. Admettons en effet qu'on puisse ne posséder que partiellement cette culture dont on vient de parler. Vous voyez ? C'est curieux, hein ? C'est intéressant, c'est au fond ce qu'Aristote fait toujours comme distinction même en philosophie. Ceux qui regardent les hommes qui ont des principes propres et ceux qui n'en ont pas. Un habitus scientifique regarde les principes propres. Et ceux qui ont une culture générale, très proche de la rhétorique. Donc je n'insiste pas ici, ça c'est un point de vue très intéressant qu'Aristote reconnaît et que nous devons reconnaître aussi. Il est donc clair que dans la recherche sur la nature, il faut poser un certain nombre de notions comme règles d'après lesquelles on appréciera la forme de la démonstration sans se demander comment les choses sont en fait de cette manière autrement. J'entends par exemple la question de savoir s'il faut prendre chaque substance à part et la déterminer en ne considérant qu'elle. Ainsi, étudier la nature de l'homme, la nature du lion ou du bœuf ou d'autres êtres, en les prenant isolément, ou bien s'il faut auparavant réunir dans un exposé général les traits communs à tous. Beaucoup de traits, en effet, sont communs à plusieurs genres, différents d'ailleurs les uns des autres. Sommeil, respiration, croissance, décroissance, mort. Et avec cela, tout le reste en fait des propriétés d'état. Les signaler maintenant serait obscur et vague. Il est évident que si nous traitons isolément des diverses espèces, nous devrons répéter souvent les mêmes choses. Vous voyez le souci pédagogique, hein ? Si vous traitez de la respiration, propre ou vivant, vous la traitez génériquement. Si on traite une chose génériquement, on n'être pas scientifiquement. Mais le conflit, hein, c'est très très intéressant ça. la différence de la connaissance par mode générique et la connaissance par mode analogique. Et la connaissance spécifique qui fait qu'on regarde chaque espèce différente. Est-il une philosophie du lion ? Est-il une philosophie de l'homme ? C'est tout ça qu'Aristote traite. C'est pas si facile que ça. Surtout lorsqu'on s'agit du vivant. Et c'est à l'égard du vivant qu'il fait ça. C'est pas à l'égard de la nature. Pourquoi ? Le vivant pose-t-il des problèmes nouveaux ? Et au point de vue méthode, pose un problème nouveau. On en est encore là, on n'a pas résolu ces problèmes-là. Aristote les pose, c'est le mérite. Il est évident que si nous traitons isolément des diverses espèces, nous devrons répéter souvent les mêmes choses. Chacun des traits dont nous venons de parler se rencontre chez les chevaux, les chiens et les hommes. La respiration du chien est-elle celle de l'homme ? La respiration du lion est-elle celle de l'homme ? La respiration du poisson ? Si donc on examine isolément ce qui leur appartient, on sera forcé de se répéter souvent. Autant de fois qu'il y a d'animaux d'espèces différentes, auxquels conviennent ces traits, lesquels en eux-mêmes ne comportent aucune différence. Il se peut pourtant que ce qu'on désigne d'un seul nom se différencie suivant les espèces. Ainsi, la progression des animaux, elle n'est pas en effet d'une espèce unique, car vol, nage, marche, raptation sont choses différentes. Il ne faut donc pas rester dans l'incertitude sur la façon de conduire l'examen. Il entend sur cette question de savoir s'il faut commencer par des considérations communes suivant les genres et passer en dernier lieu à l'étude de ce qui est propre à chacun. Et Aristote dit propre, il dit pas spécifique. Parce que nous savons que le caractère spécifique du vivant, nous ne le connaissons que pour l'homme. Ou bien, s'il faut immédiatement étudier chaque espèce en particulier. Ce point n'est pas encore déterminé, non plus que le suivant. Faut-il que le naturaliste, donc le philosophe naturaliste, à la manière du mathématicien dans ses études d'astronomie, considère d'abord les faits relatifs aux animaux et à leurs parties, pour expliquer ensuite le pourquoi et les causes, ou bien faut-il procéder autrement ? Donc, voyez, tout de suite, au point de vue méthode, Aristote pose le problème. Connaissance générique des vivants. Ou des vivants. C'est plus juste. Différentes espèces de vivants. Connaissance générique. Connaissance propre. Ceci, genre, propre. Ou différents spécifiques. Je reste dans la connaissance générique. La connaissance générique est-elle philosophique ? Connaissance analogique par les principes propres. C'est le même problème qui se pose aujourd'hui. La connaissance générique des vivants, c'est la connaissance, puisque le genre se prend ex parte materiae. Et que la différence spécifique se prend ex parte formée. La forme substantielle. Ou la substance, si vous voulez. Nous avons là une connaissance qui donnera des définitions logiques, pas philosophiques. Alors faut-il commencer par la connaissance générique des parties des animaux, connaissance propre, chacun des classifications différentes. Quelque chose de commun à tous les vivants. Vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui. Tous les vivants, vous les réduisez à l'élément commun, générique. Et vous croyez connaître le vivant. Vous connaissez l'aspect générique des vivants. Puis la connaissance spécifique, propre. Chaque espèce, des espèces différentes. Bon, c'est une connaissance logique. Est-ce que la science, au sens aristotélicien, est-elle ça ou est-elle là? Faut pas oublier qu'Aristote est fondateur de la science. Et de la philosophie. Il considère que Platon n'a pas atteint le point de vue scientifique. Les seconds analytiques. C'est ça qu'il cherche, une méthode scientifique. Pour lui, scientifique égale philosophique. Or, il le dit explicitement dans les seconds analytiques. Dans les secondes analytiques, tant que vous n'avez pas atteint les principes propres, vous n'avez pas de connaissance scientifique. Or, la connaissance générique n'est pas une connaissance des principes. Quand je saisis l'élément commun de tous les vivants, réductivé, pour qu'il y ait vivant, il faut qu'il y ait ADN. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas le vivant. Qu'est-ce que vous connaissez du vivant? L'élément. Vous définissez. Définition logique. Ce n'est pas une définition scientifique. Bon. Il faut connaître les principes propres pour saisir ce qu'est le vivant. Connaissance scientifique. Dès qu'on connaît les principes propres, on sait que les principes propres vont connaître des modalités différentes. Et j'aurai donc une science. J'aurai donc des diverses modalités de science. Vous voyez, je confonds, je crois que c'est ça que nous touchons. Ça t'expose. Que la connaissance du dit anima, si je regarde le livre du dit anima, un livre complètement ignoré de notre monde d'aujourd'hui, le dit anima fait hurler les gens. Il faut bien savoir, hein, dès qu'on mène le dit anima, vous foudroyez toute la science moderne, pas les parties des animaux. Intéressant à ce point de vue-là. Il faut savoir ce qu'on manie. Le De Anima, c'est la connaissance de la cause propre du vivant. Et vous l'étudiez par l'homme. Pourquoi? Parce que le vivant par excellence, c'est là où j'étudierai les principes propres du vivant. Oui, c'est pas du tout générique, l'homme. tout à fait spécifique. C'est même le seul animal dont je connais la différence spécifique. Puisque vous ne connaissez pas la différence spécifique du lion, malheureusement, puisqu'il est le roi des animaux. Il n'y a qu'un seul roi des animaux, c'est l'homme, dont je connais la différence spécifique. Aujourd'hui, on ne veut pas dire que l'homme est le roi des animaux, puisqu'on est dans la démocratie. Alors, on ne peut pas en revoir le point de vue générique. Mais c'est la connaissance par les principes. Vous voyez, alors toute la différence du De Anima et ce que nous voyons ici. C'est intéressant, ça. Alors, il faut se demander si la connaissance de la cause matérielle du vivant rejoint ça. C'est ça la question. Quelle différence y a-t-il entre la connaissance ex parte matérielle et la connaissance de la cause matérielle? Et alors on pourrait mettre, troisième point, la connaissance biologique d'aujourd'hui. La biologie d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une connaissance générique? Est-ce que c'est une connaissance par les causes propres? Ou est-ce que c'est une connaissance par les lois? Vous voyez, au fond, il y a trois claviers, aujourd'hui. Il y a trois claviers. Si on maintient le De Anima, la connaissance générique, elle existe toujours. On ne peut pas la supprimer. Alors, est-ce que les lois sont ici? Les lois de la biologie moderne. Quel est le lien? Vous voyez, c'est la connaissance générique qui va être la plateforme de rencontre des lois et de la connaissance philosophique. C'est là où les étincelles existeront. Parce que l'âme, elle est au-delà. La biologie moderne ne nous dit rien de l'âme. Mais la biologie moderne nous dit quelque chose des éléments. Et alors, connaissance générique par la connaissance de la cause matérielle, connaissance générique par le point de vue des lois. Il me semble, on va voir progressivement, je pose au moins le problème.
On peut dire que la connaissance par les lois, c'est la perfection de la connaissance générique.
Oui. On essaie d'atteindre quelque chose de propre et quelque chose de spécifique. Ça reste au niveau des propriétés. Vous voyez, ça ne dépasse pas les propriétés. Et même, est-ce que ça les atteint? Je ne sais pas. Et ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est le lieu de rencontre. Parce que quand on compare, on ne peut comparer que s'il y a un lieu de rencontre. S'il n'y a pas de lieu de rencontre, on ne peut pas comparer. On est dans deux planètes différentes. Je suis dans la planète De Anima, vous êtes dans la planète biologie. Vous vous regardez et vous vous lancez de temps en temps les lance-fusées. Une bonne fusée, bien, bien dirigée. Avec votre biologie, vous ne pouvez rien dire de l'esprit. Alors, moi, je maintiens l'esprit. Et l'on dira, avec votre De Anima, vous ne pouvez rien dire sur le système nerveux. Oh, c'est le système nerveux qui est important. Aristote n'a rien dit là-dessus. Oui, aucune valeur. Bon, lancement de fusée. Alors, c'est intéressant, les parties des animaux, à cause de ça. Oui.
Est-ce qu'il y a une différence entre la connaissance biologique et la connaissance scientifique?
La connaissance biologique, de science biologique.
Moi, je voulais parler
des sciences
biologiques.
Oui, la science biologique est une science qui se dit science, qui se veut science. Quelle est, si je suis aristotélicien, c'est-à-dire si j'essaie d'être philosophe, je dois pouvoir juger, c'est ce que j'ai dit, il faudrait refaire ici les degrés de science. Il faudrait pouvoir juger. quel est le type de connaissance avec la méthode biologique? Quelle est l'intelligibilité propre du vivant que je saisis par les sciences biologiques? C'est ce que nous cherchons. Oui, c'est pour ça que j'ai dit trois types de connaissances qui existent aujourd'hui. Qui existent aujourd'hui. Et ces trois types de connaissances, c'est ça les degrés du savoir. Le premier type qui n'est pas scientifique. La connaissance générique est une connaissance logique. La logique n'est pas philosophique. Elle est la logique. C'est un instrument, organon. Définir par genre et différence spécifique, c'est un classement très très important, un bon fichier pour l'ordinateur. Connaissance logique. Je ne sais pas du reste si l'ordinateur pourrait saisir ça. Ça fait rien. Après, supposons. Deuxièmement, connaissance science, scientifique. Pour Aristote, troisièmement, science biologique moderne. Le présupposé de 2 et 3, c'est la connaissance générique. On ne peut pas s'abstraire de la connaissance générique. On ne peut pas. On ne peut pas ne pas employer définition. Dans le langage. Alors, quand on recherche quel est l'élément, oui, l'élément commun, fondamental du vivant, qu'est-ce que c'est que cette recherche? Qu'est-ce que c'est que cette recherche? Le hasard et la nécessité. C'est dit là d'une manière extraordinairement claire. Et c'est très très intéressant de voir le sophisme qui est fait. Parce qu'on atteint un élément générique, comme c'était une source du vivant. Et on passe de l'élément générique à la cause. La cause est source, et pas l'élément générique. Je crois que le sophisme est là. Et ça, on va le voir. Bon, c'est ça qu'Aristote donne ici. Vous voyez qu'au fond, nous avons deux types de connaissances, une connaissance générale et une connaissance propre. Vous voyez, Aristote n'est pas encore passé de principe. On va voir maintenant. Il a pris deux choses tout à fait générales. C'est vrai, il y a des gens qui ont, je dirais, une extension et une compréhension. Puisque l'élément, la connaissance générique, au point de vue de l'extension, il n'y a rien de tel. Les gens savent tout. Et en sachant tout, ils ne savent rien. Parce qu'ils savent tout, génériquement. Puis, le point de vue de la compréhension. Je sais qu'on n'aime peut-être pas toujours... Extension et compréhension, c'est pourtant vrai au point de vue universel. Connaissance générique est une connaissance universelle, ouverte à tout. Le genre est tout. L'extension, c'est tout. Et la connaissance par le propre, par la propriété, par la différence spécifique, c'est la compréhension, la précision. Alors c'est ça qu'Aristote montre ici. Et alors à ce moment-là, Aristote a tout à fait raison de dire qu'il y a deux sortes d'esprits. Il y a des esprits qui se jettent sur l'extension. Et il y a des esprits qui aiment la précision. Et vous voyez, quand il s'agit du parrainage vis-à-vis des étudiants plus jeunes, il faudrait tout de suite saisir les qualités intellectuelles. Les uns vont instinctivement vers le genre, et d'autres instinctivement vers la différence spécifique. Curieux, ça. C'est ça qu'il faut détecter assez vite. De plus, maintenant nous passons à autre chose, hein, de plus. En tout devenir naturel, nous observons plusieurs causes. Ah, voilà les causes qui affolent. Parce que là, c'était genre et différence spécifique. Maintenant, nous touchons les causes. Alors, tout à fait un autre type. Parce que la saisie du principe, c'est le point de vue de la compréhension et de l'extension qui vont de pair. C'est le preuve de la connaissance générique, de la connaissance analogique. On est au-dessus de la distinction extension-compréhension. Les sens qualitatifs des principes et des causes. De plus, en tout devenir naturel, nous observons plusieurs causes. Par exemple, la cause en vue de laquelle et la cause à partir de laquelle se fait le changement. Donc tout de suite, les deux types de causalité qu'Aristote prend. Donc la cause énécatinos et la cause à partir de quoi? Il faut donc déterminer sur ce point aussi laquelle se trouve être première et laquelle est seconde. Donc discerner l'ordre. Il semble que la première cause soit celle que nous appelons en vue de quoi? En effet, elle est logos. Et le logos est principe. Aussi bien dans les produits de l'art que dans ceux de la nature. Vous voyez, c'est intéressant, toujours. Le en vue de quoi est saisi en premier lieu dans l'art. Aristote y revient chaque fois. Donc retenons bien ça, parce que c'est très bien résumé ici. Hein. Il semble que la première cause soit celle que nous appelons en vue de quoi? En effet, elle est logos. Et le logos est principe. Que raison, c'est très difficile de traduire raison. Presque mieux laisser logos. On traduira petit à petit. Rien que c'est pas si mal traduit, hein, raison. Pas si mal traduit. Parce que vous voyez, logos, c'est pas la définition. C'est pas le totiainainain. Alors tout de suite, hein, la question qui se posera, la différence entre le logos saisi ici et le taux DNA9, c'est ici. La définition, regarde le taux DNA9. Alors, quelle différence y a-t-il entre le taux DNA9 et le logos? Aristote pose au fond tout de suite la question ici. Hein. On a regardé d'abord le genre et le propre, maintenant on regarde le logos. Bien qu'Aristote veut nous préciser deux niveaux d'intelligibilité. Elle est donc, et le logos, en effet, elle est logos, et le logos est principe, aussi bien dans les produits de l'art que dans ceux de la nature. Le médecin commence par déterminer, soit par raisonnement, soit par observation, ce qu'est la santé. L'architecte, ce qu'est la maison. Il rend compte, par là, des raisons et des causes de leur démarche et du pourquoi de leur action. voyez, le logos, c'est ce qui nous, c'est ce qui détermine, et ce qui permet tout de suite de connaître en vue de quoi. Or, il y a davantage de finalité et de beauté dans les œuvres de la nature que dans les fabrications humaines. Ça, c'est une petite phrase extrêmement importante. Vous voyez, ça semble contradictoire avec ce que je vous ai dit il y a un instant, et c'est pas contradictoire. Les œuvres de la nature, c'est-à-dire la nature, les réalités naturelles, sont plus finalisées que les œuvres d'art. Mais la finalité des œuvres d'art est plus proche de notre connaissance que la finalité des œuvres de la nature. Donc c'est toujours les deux ordres différents, l'ordre génétique et l'ordre de nature. C'est très important, vous voyez. Je peux effacer ça maintenant pour qu'on voit autre chose. C'est important, ça c'est le fond. Hein. On y reviendra tout le temps. Si on ne saisit pas ça, je crains qu'on ne saisisse absolument pas la possibilité de voir le lien entre la physique, la biologie moderne et la philosophie d'Aristote au niveau philosophie du vivant. Alors voyez un petit peu ce que dit Aristote ici. Je dis ceci, moi. Selon l'ordre génétique, la philosophie de l'art est première par rapport à la philosophie de la nature. Du point de vue connaissance, selon l'ordre génétique. Connaissons, l'art est manifeste pour nous, il est humain, plus proche de notre nous. C'est pour ça que c'est par l'art qu'Aristote détermine la finalité de la nature. Selon l'ordre de nature, la fin, la finalité, est plus profonde, plus première, plus principale dans la nature que dans l'art.
Vous ne pouvez pas donner un petit exemple par rapport à l'œuvre de nature, parce que au point de vue artistique.
Attends une seconde. Je dis ça, c'est parce que la scolastique a fait juste l'ordre inverse. Et la scolastique dit la première chose qu'on doit étudier, c'est la philosophie de la nature. J'ai dit non. La première chose qu'on doit étudier, c'est la philosophie de l'art. Puis l'éthique. Puis la politique. La philosophie pratique est plus proche de notre nous que la philosophie spéculative. On ne naît pas dans son berceau avec une philosophie spéculative. La scolastique a mis en premier lieu la philosophie de la nature, l'aspect spéculatif. Puis on a dit, on étend les principes à la réalité pratique. Alors à ce moment-là, c'est la mort de toute la philosophie pratique et la mort du spéculatif. Oui.
Je veux dire que c'est pas la philosophie du vivant qui va déterminer l'éthique.
Non, c'est l'éthique. Ah, à déterminer, attention. L'éthique a ses principes propres. Et donc la philosophie du vivant ne détermine pas l'éthique.
Je pense au problème de bioéthique.
Oui, tout à fait. Si on n'a pas une éthique avant la bioéthique, on n'a rien. La science biologique ne donnera jamais une éthique. C'est Monod qui disait, que le progrès de l'éthique dépendait du progrès de la biologie, de la science biologique. C'est Monod qui a dit ça. Le premier, puis ça se répète aujourd'hui. C'est de mettre en dessous Monod. Parce que Monod a dit qu'on éduque un petit enfant comme un petit chat. Il l'a dit à Genève. Parce qu'un petit chat, vous l'éduquez en fonction de sa biologie. Pour qu'il ne soit pas enragé. Parce que si vous l'éduquiez en dehors de sa biologie, il serait enragé. Tandis qu'un petit enfant, vous l'éduquez en fonction de l'éthique humaine. Il y a une nature humaine que la biologie ne pourra jamais atteindre. Elle donne des soubassements, les éléments, le conditionnement. Oui, alors ça, je crois que c'est très très important. C'est pour ça que dans l'être à un ami, j'ai remis ça, mais je sais très bien que c'est pas commode. La philosophie là ne détermine pas le spéculatif, le conditionne. C'est plus clair pour nous. Mais chaque partie de la philosophie a ses principes propres, donc son expérience propre. Donc c'est très important de voir ici ce que dit Aristote. Hein. En effet, elle est logos, et le logos est principe, aussi bien dans les produits de l'art que dans ceux de la nature. Le médecin commence par déterminer, soit par raisonnement, soit par observation, ce qu'est la santé. L'architecte, ce qu'est la maison. L'architecte doit se demander d'abord qu'est-ce que c'est qu'un couvent, avant de pouvoir le construire. Quelle est l'utilisation d'un couvent, à la différence d'une maison pour une famille. Ils rendent compte, par là, des raisons et des causes de leur démarche et du pourquoi de leur action. Or, il y a davantage de finalité et de beauté. Très curieux, finalité et beauté. Hein. Il y a davantage de finalité de beauté dans les œuvres de la nature que dans les fabrications humaines. Vous voyez ? Donc il y a une beauté dans la nature. C'est pour ça qu'il y a une beauté en Dieu. Parce qu'elle est dans la nature. Elle n'est pas uniquement dans les œuvres d'art.
Est-ce qu'elle est plus grande dans la nature ?
Oui, elle est plus grande dans les œuvres d'art que dans la nature. Aristote dit quelque chose sur lequel je ne serais pas tout à fait d'accord. Pour la finalité, je suis d'accord. Les œuvres d'art expriment plus la beauté que la finalité. Sauf l'art religieux. Sauf la liturgie. Qui exprime davantage la finalité que la beauté. C'est le propre, justement, de la liturgie. Et dans les autres œuvres d'art, c'est faux. Les œuvres d'art expriment d'abord la beauté, puis ensuite la finalité. Mais l'activité artistique exprime la finalité. De façon plus claire, et pas l'œuvre d'art. Oui.
Est-ce que pour une beauté qui est de la même manière, c'est une beauté qui est plus proche de moi ? Est-ce que pour la nature, c'est une beauté qui est plus proche de moi ?
Plus proche du bon.
Du bon.
La bonté est inscrite plus profondément dans l'œuvre de la nature. Vous voyez, moi j'aurais mis, il y a davantage de finalité de bonté dans les œuvres de la nature que dans les fabrications humaines. Alors je sais très bien que le kalos kagagaton grec est assez fort, même chez Aristote de temps en temps. Et pour nous, nous devons être plus soucieux qu'Aristote de distinguer la beauté de la bonté. Là, nous avons fait un progrès. D'autre part, la nécessité à laquelle certains s'efforcent de réduire à peu près toute raison, faute de distinguer les acceptions diverses du nécessaire, ne se rencontre pas de façon identique dans toutes les œuvres de la nature. Nécessité absolue dans les êtres éternels, nécessité conditionnelle dans tous les êtres soumis au devenir, de même que dans les objets artificiels. Maison, ou quoi que ce soit de semblable, telle matière est nécessaire si telle maison doit être réalisée, ou quelque autre fin. Il faut que ceci soit produit et transformé, et ceci encore, et ainsi de suite, sans interruption, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce en vue de quoi chaque chose est produite et existe. Pareillement, dans ce que produit la nature. On continuera. Mais réfléchissez beaucoup là-dessus, sur ces trois degrés d'intelligibilité.
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.